Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Geneviève Peterson.
Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
On va parler de la réalité des hommes violents. C'est un sujet, toujours un peu compliqué à aborder. Là, quand on parle d'aider les hommes violents, ça veut pas dire ne pas aider les victimes de violences conjugales. C'est deux sujets séparés, mais c'est deux sujets qui communiquent, parce que si on aide les hommes violents, ben force est d'admettre qu'il y aura moins de violences faites aux femmes. Du moins, on l'espère. Puis tristement, là, avec les féminicides qu'on connaît actuellement, on a parlé beaucoup de cette thématique-là. Puis c'est revenu là dans les points de presse, notamment quand Geneviève Guilbeault a fait les annonces sur la violence conjugale, qu'à un moment il faudrait aider les organismes qui viennent en aide à ces hommes-là. Est-ce que ça s'est traduit par plus de demandes d'aide dans les organismes? Puis ça, je me posais la question. Donc, on reçoit Geneviève Landry, qui est directrice générale d'Entraide pour hommes, présidente du réseau À cœur d'hommes. Madame Landry, bonjour.
Bonjour, Madame Peterson.
Est-ce que vous en avez plus des demandes au sein des organismes qui viennent en aide aux hommes violents depuis qu'on en a parlé, je dirais, plus ouvertement sur la place publique?
Ah oui, tout à fait. On a vu vraiment une recrudescence là, des demandes d'aide. Si on avait vu, là, tu sais, au printemps, on a reçu du financement d'urgence là, par la ministre Guilbeault, qui a permis un peu de se sortir la tête de l'eau. Mais là, actuellement, là, on reçoit beaucoup de demandes, et je vous dirais là, des hommes qui le fait, les publicités les ont bouleversés, ils les ont amenés à faire des prises de conscience.
C'est vrai, hein?
Oui, comme par exemple, il y a un homme qui disait cette semaine, moi, quand j'ai vu l'annonce avec Patrice Robitaille, j'ai réalisé que ma jalousie et le contrôle, c'était de la violence et que je devais faire quelque chose. Donc, cet homme-là est venu là, vers nos organisations.
Oui, ça, est-ce que c'était la pub ou c'était le gars qui faisait à souper à sa blonde un peu pour se faire pardonner d'avoir des comportements problématiques? Moi, j'en ai tellement entendu parler de cette pub-là dans mon entourage, de Mme Landry.
Toutes les publicités ont eu leur impact. Oui. Et le fait, comme vous le disiez d'emblée, on en a parlé sur la place publique. Oui. Le gouvernement s'est positionné en disant l'intervention auprès des hommes, c'est important. Oui. Moi, c'est vraiment la première fois que j'entends cette position-là qui est publique. Donc, inévitablement, ça a amené les hommes à faire des prises de conscience. Et le fait qu'on amène des situations où on ne voit pas de violence physique, mais bien de la violence psychologique, la violence verbale, du contrôle. Autrefois, on n'en parlait pas. Donc, les hommes arrivaient en disant « Ben moi, j'ai un problème, mais je suis pas comme le gars à la télévision. » Alors que là, maintenant, c'est « Ich, je viens de voir le gars à la télévision et je me suis dit « Oh my God, c'est moi, je dois faire quelque chose. »
Mais donc, dans quel état? Je m'excuse, là, mais quand ils vous arrivent, ces hommes-là sont dans quel état?
Sont très honteux, hein. C'est pas des hommes, comparativement à ce qu'on pense, c'est pas des hommes qui sont très fiers, hein, d'avoir agi de la violence. C'est des hommes qui regardent le plancher, et c'est des hommes qui nous font confiance, là, pour trouver des moyens d'agir, là, des moyens pour arrêter vraiment la violence conjugale. Mm. Et je pense qu'il est important de dire, Mme Peterson, en introduction, vous dites que travailler auprès des femmes et des hommes, c'est deux choses différentes. Je voudrais non, au contraire.
Mais c'est communicant.
Ben, on travaille pour la même raison que pour la non-violence. Et lorsqu'on intervient auprès des hommes, c'est pas vraiment de l'aide et du soutien, c'est vraiment de l'intervention. Lorsqu'on intervient auprès des hommes, ben, on assure la sécurité des femmes et des enfants. Ça, je pense que c'est important de le nommer. Mm-hmm. Parce que sur le terrain, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets qui sont faits en collaboration avec un organisme pour hommes et une maison d'hébergement pour femmes.
Mais puis là, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est que, bon, évidemment, là, on a eu une hausse de demande d'aide. Est-ce que vous craignez de ne pas être capable de répondre à cette demande-là?
Tout à fait. Moi, j'ai crainte si on avait une petite baisse. Là, je vous donne un exemple. Par exemple, la région de Longueuil, en mars, il y avait 125 hommes en liste d'attente. Maintenant, c'est 45 hommes en liste d'attente. Donc, il y a vraiment eu une baisse. Mais là, on voit les demandes entrer et j'ai peur qu'on se retrouve à la même place que mars. Mm. Toutefois, je vous dirais, je suis positive parce que la ministre Guilbeault a bien dit avant sa conférence de presse, ce n'est qu'un financement d'urgence et on sait que le gouvernement est actuellement en train de faire des travaux, voir quels services sont offerts au Québec et qu'est-ce qu'il y aurait à en mettre en place pour contrer la violence conjugale. Alors, oui, je suis inquiète, mais en même temps, j'ai confiance que là, on en parle publiquement, c'est beaucoup moins tabou. Autrefois, à parler de l'intervention auprès des hommes, c'était tabou. Seul les moins. Donc, je pense que nous sommes dans la bonne voie.
Je pense que la question que tout le monde se pose là, quand on parle de la violence chez les hommes, des organismes qui leur viennent en aide, des thérapies, de toutes ces choses-là, est-ce que ça se peut pour un homme violent de changer?
Bien sûr. Bien sûr. Comme je vous le disais d'emblée, donc d'emblée, ça fait plus de 20 ans que je fais ce travail-là, donc je ne vais pas continuer. Oui. De deux, est-ce qu'on voit quelques statistiques là, à l'entraide pour hommes à Longueuil, par exemple, c'est 60 % des hommes qui terminent leur processus. Donc, ça, c'est un indicateur de réussite. Et il y a quand même 25 % de ces hommes-là qui nous rappellent dans les premières années pour dire, moi, je sens que ça va pas bien, donc j'aimerais ça pouvoir avoir un suivi justement pour éviter la récidive. Et les intervenants au Québec, là, il y a 31 organismes pour conjoints violents au Québec, là, ce sont tous des professionnels dûment formés là, pour intervenir auprès de ces hommes-là. Donc, oui, ça fonctionne pas à 100% comme n'importe quel programme d'aide, que ce soit en toxico ou dans le domaine de la santé mentale, mais effectivement, et c'est important de le dire parce que il faut que les hommes qui nous écoutent aujourd'hui, si on leur dit que ça fonctionne pas, ils viendront pas nous voir. Donc, c'est important de pouvoir le souligner qu'effectivement, il y a des hommes qui sortent de ces programmes-là en ayant contré la violence conjugale. Mmh. C'est important de le dire. La violence, en fait, Mme Peterson, c'est un problème de comportement et c'est un choix. Donc, c'est quelque chose qui se change, c'est possible.
Puis, dans toute cette discussion sur les féminicides, il était beaucoup question de prévention. Ouais. Vous parliez de liste d'attente, puis à chaque fois que je parle à des experts de la question des personnes qui travaillent en maison d'hébergement pour femmes, c'est toujours... quand on regarde les cas de plus près, là, il y avait des indices. Le couple était dans une période de séparation. À quel point c'est important d'agir rapidement là, quand ces hommes-là demandent de l'aide? Est-ce que ça se peut, dans une certaine mesure, prévoir des meurtres conjugaux, des meurtres familiaux?
Tout à fait. Bon, d'abord, chez les hommes qui sont non judiciarisés. Bon, ce qui est important de dire, c'est que ces appels, évidemment, il y a des listes d'attente, mais on fait l'évaluation de la dangerosité.
C'est sûr
qu'on va les voir dans des places urgentes. Ça, ne vous inquiétez pas. Les intervenants sont formés là, en prévention des homicides. On a des outils. L'autre chose, c'est ce qu'on peut voir dans tous les féminicides de cette année, il y avait eu intervention policière. Mm-hmm. Et loin de moi de dire que c'est la faute des policiers, au contraire, mon message, c'est de dire on ne peut pas être seul dans ces situations-là. Il faut que policiers, DPCP, maisons d'hébergement et les organismes d'hommes travaillent ensemble. La violence conjugale, ça concerne tout le monde. Et ce que j'ai constaté, c'est lorsqu'il y a une arrestation policière qui les remet en liberté, il est laissé tout seul avec lui-même. Moi, je pense que s'il y avait une évaluation systématique de sa dangerosité au moment de l'arrestation policière, avant de la remise en liberté, ben, on pourrait réduire le risque de féminicide. Et s'ils étaient suivis automatiquement aussi, je pense que ça pourrait contribuer là, à diminuer ce phénomène-là.
Il y a des questions légales aussi là, d'en suivre les gens automatiquement. Et ça fait pas l'affaire de tout le monde.
Mais suivre dans le sens des services psychojudiciaires. Ouais. Comme par exemple, le sujet de l'heure d'un dernier temps, c'est les tribunaux spécialisés. Moi, je suis favorable aux tribunaux spécialisés. Qu'on s'occupe de la victime, qu'elle soit suivie du début jusqu'à la fin. Moi, ce que je dis, c'est important aussi que le conjoint violent soit aussi suivi, évalué et qu'il puisse avoir des services psychojudiciaires pour qu'il puisse participer à cette démarche-là puis qu'on puisse s'assurer est-ce que cet homme-là est capable de respecter ses conditions de remise en liberté. Souvent, on me dit, je sais que je ne dois pas la texter. Je le sais. Je me lève le matin, je me dis, je ne la texte pas. La journée passe, je suis fatiguée, j'ai eu une mauvaise journée et là, je la texte et après ça, il se sent coupable. C'est comme un cycle. Mais il faut regarder avec cet homme-là. Ces tribunaux spécialisés, on regarde, est-ce que cette condition-là, est-ce que tu es capable de la respecter? Si tu n'es pas capable, quel filet de sécurité on va mettre autour de toi pour ta sécurité à toi et la sécurité de ta conjointe et des enfants?
OK, on s'est parlé des tribunaux spécialisés. Le bracelet électronique, mettons. Ça, on en pense quoi?
Ce que j'en pense, les bracelets électroniques, c'est pas pour tous les cas. T'sais, on s'entend, là, c'est pas pour tous les cas de violence conjugale. Il faut y aller vraiment selon l'évaluation. En même temps, ce qu'on doit comprendre, c'est les bracelets électroniques, c'est sous volontariat. Donc, c'est sûr que là, encore là, je me dis, tu sais, il y aurait quelque chose à faire avec ça. Sous volontariat, il faut que l'homme soit volontaire de le porter. Donc, c'est une mesure parmi tant d'autres. Mais moi, je pense que ça demande vraiment plusieurs mesures, et non pas seulement judiciaires, mais vraiment au niveau psychosocial.
C'est
parce
vrai.
Que d'avoir un lien de confiance avec cet homme-là, il va pouvoir me dire tout ce qui lui passe par la tête.
Oui, c'est comme moi, un plaster, le bracelet électronique, là.
Oui, puis moi, ce que je dis souvent, c'est que tu n'es pas responsable de tes pensées, tu es responsable de ce que tu fais avec. Et à partir du moment où moi, je sais que tu as des idées noires dans ta tête ou que tu as des idéations d'homicide, bien, je vais venir déconstruire ça avec toi. Parce que souvent, ils voient ça comme un entonnoir. Plus ils avancent, plus ils croient que c'est la seule solution qui existe. Et je vous le dis, Mme Peterson, tous les hommes avec qui on est intervenu, qu'on a évalué, puis qu'on était intervenu parce qu'il y avait des idées d'homicide, certains, on est intervenu de façon volontaire, d'autres, on a dû appeler des renforts, des policiers, mais de façon générale, tous ces hommes-là disent hey, « merci, à ce moment-là de ma vie, je n'étais pas capable de prendre des décisions pour moi et j'aurais fait une gaffe monumentale. » Donc, tu sais, vous avez en fait sauvé ma vie. Donc, c'est important de voir que lorsqu'on intervient, on installe un filet de sécurité autant chez l'homme et chez la femme.
Oui, puis ça me fait penser, là, pendant que vous abordez cette question-là, moi, je me suis beaucoup posé la question sur le rôle des médias dans la couverture des féminicides. Puis je me disais, est-ce que notre façon de couvrir ces événements-là est adéquate en ce sens où est-ce que ça peut, par exemple, donner des idées à certains hommes violents de faire la même affaire? Tu sais, un peu comme quand on parle de suicide, il faut être excessivement prudent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il faut être excessivement prudent dans le, je pense, comme le suicide, de quelle façon on en parle, puis ne pas donner trop de détails sordides. Par contre, lorsqu'on en parle de façon positive entre guillemets, là, en disant on va expliquer c'est quoi les facteurs de risque, qu'est-ce qui amène un homme à commettre un homicide, quels sont les organismes qui existent, là, ça a tout un bienfait. Nombre d'hommes qui sont venus dans nos organismes au Québec en disant, ben moi, j'ai entendu une entrevue à radio, j'ai entendu les facteurs de risque, je me suis dit, hey, mon Dieu, c'est moi, je vais aller demander de l'aide. Donc, effectivement, je crois qu'il faut en parler, il faut démystifier ce phénomène-là, mais ça prend aussi le « qu'un homme de toi va chercher de l'aide et voici où tu peux aller ». Parce qu'on sait que la méconnaissance des organismes est un frein à la demande d'aide.
Puis on sait que, bon, pour qu'il y ait de l'aide, il faut qu'il y ait de l'argent. Geneviève Landry, on va vous en souhaiter pour qu'on lutte tous ensemble dans cette problématique qui sont les féminicides. Ça concerne tout le monde, vous l'avez dit. Il faut aider les hommes violents. Puis comme ça, on prévient bien souvent des choses absolument horribles. Geneviève Landry, qui est directrice générale d'Entraide pour hommes et présidente du réseau À cœur d'hommes.